Grève, champ magnétique, manifeste et meilleurs ennemis. Aujourd'hui, invention du surréalisme et refondation de la poésie et même une enquête en dessin à la recherche du surréalisme disparu avec Olivier Wagner, Laurence Campa et David B.
Manu Farid.
Et c'est jusqu'à 16h, Olivier Wagner, Laurence Campa et David B. Je ne sais pas s'il est avec nous ou pas, on a des petits soucis techniques. Bonjour et bienvenue à tous les deux, à tous les trois. Au sommaire aujourd'hui, un album onirique, c'est-à-dire surpeuplé, signé David B. Ou l'enquête pistolet au poing du fameux détective Nick Carter, missionné par André Breton, paranoïaque juste, ce qu'il faut. Une mission forcément aux frontières du réel, à la recherche d'un criminel voleur d'âmes surréaliste, ou en tout cas de l'or du temps, et très probablement du merveilleux. Breton en personnage forcément très présent dans le parcours de l'exposition qui s'ouvre, on l'espère, le 15 décembre à la Bibliothèque nationale de France. Vous en co-signez le commissariat, Olivier Wagner, et vous en co-signez le catalogue, Laurence Campa. Une exposition titrée « L'invention du surréalisme, des champs magnétiques à Nadja ». Choisir le terme d'invention plutôt que celui de naissance, par exemple, est-ce que c'était déjà tenir un discours sur le surréalisme, Olivier Wagner ?
Ah, très certainement, c'est-à-dire qu'il faut l'entendre, cette invention, comme l'invention d'une relique. C'est-à-dire que c'est un retour sur le surréalisme qui permet de le réinventer aussi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire de renouveler la vision qu'on peut avoir d'un mouvement qu'on pense tous connaître et se rendre compte en fait que quand on revient dans les pas de ces tout jeunes poètes à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'on leur fait confiance dans ce que cette aventure pouvait avoir de fraîcheur, de spontané, on se rend compte à quel point ce surréalisme que l'on découvre peut être loin des poncifs.
Alors on va visiter ça tout de suite et ça commence comme ça. Un extrait de Parade, musique signée Satie. C'est presque par là que commence l'exposition. C'est une sorte de petite scène avec costumes, projections, bout de décor. Parade, c'est donc ce fameux ballet de Diaghilev créé en 1917 au Châtelet avec livret de Cocteau, chorégraphie de Massine, scénographie de Picasso. Alors je dis presque par là, parce que c'est pas tout à fait juste. Cet ensemble-là est tout juste précédé d'un petit mot de Breton à Aragon, une sorte de petit fétiche à encadrer et qui dit simplement « Mais Guillaume Apollinaire vient de mourir ». Pourquoi fallait-il commencer par là, Olivier Wagner, et qu'est-ce que c'est que ce « mais »
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en novembre 1918, donc la veille de l'armistice, la mort d'Apollinaire vient marquer pour ceux qui ne sont pas encore surréalistes, mais qui vont le devenir juste après, un tournant. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà rencontré la pensée d'Apollinaire et cette pensée moderne qui émergeait avec les Mamelles de Tirésias et le ballet Parade juste quelques semaines avant. En pleine guerre mondiale, on avait cette décharge de modernité alors que les canons marquaient la chamade partout autour. Et paradoxalement, avant même la mort d'Apollinaire, ces jeunes poètes commençaient à s'en détacher. C'est-à-dire que la voix offerte par ce grand aîné ne leur suffisait déjà plus. Et cette mort, en fait, va être assez opportune pour eux, dans le sens où elle va définitivement ouvrir les possibles et ils vont pouvoir trouver leur voie singulière.
Alors justement, avant d'en venir, alors je crois que c'est Vacher qui disait que finalement cette mort tombait assez bien, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, elle marque la fin de quelque chose. Mais pour en rester à 1917 et donc à ses tout débuts, Olivier Wagner, donc on a cette première scène en rentrant qui montre des éléments présents dans le ballet Parade, et puis tout à côté, une évocation des mamelles de Tirésias, que vous venez de citer, montée aussi en 17, donc la guerre n'est pas terminée, qui sera montée une seule fois, et qui est cette fameuse pièce qu'Apollinaire lui-même va qualifier de drame surréaliste, c'est l'entrée en scène du mot à proprement parler. De quoi se charge ce mot à ce moment-là, parce que peut-être qu'il deviendra un petit peu autre chose par la suite, mais de quoi se charge ce mot pour Apollinaire, Laurence Campa?
Oui, vous avez raison, ça va devenir autre chose. Les surréalistes vont s'approprier le mot, mais pour en faire autre chose, disant que finalement, ils en respectent plus l'esprit qu'Apollinaire lui-même, et non la lettre. Alors, en 1917, quand Apollinaire utilise pour la première fois, et d'ailleurs à propos du ballet Parade, l'adjectif surréaliste, c'est pour dire finalement quelque chose qui existe depuis avant la guerre, c'est que l'art n'a plus besoin d'être mimétique, que la peinture n'a plus besoin d'être fidèle à la perception rétinienne, mais que, qu'il soit littérature, peinture, sculpture, musique ou autre, il va être un art de conception qui ne va plus imiter le réel, mais le créer, en fait. Et donc, c'est ainsi qu'il va aussi qualifier son drame, Les Mamelles de Tirésias, de surréaliste. Et je crois que ce qui a intéressé par la suite les surréalistes, c'est bien que c'était pas anti-réaliste ou surnaturel, mais que c'était quelque chose qui était à la fois dans la réalité, et ça, pour le coup, Apollinaire était aussi tout à fait dans la réalité, et puis au-delà.
Alors, Aragon, justement, alors ils vont ces mamelles de Tirésias, les futurs surréalistes, en tout cas une partie d'entre eux, sont présents dans la salle, il y a Vacher notamment. Aragon, qui doit avoir, je pense, tout juste 20 ans, va en faire un rapport élogieux dans la revue SIC. Quels spectateurs, est-ce que ces tout jeunes gens de 20 ans vont être de cette pièce-là? Quelles leçons est-ce qu'ils vont tirer de cette représentation?
Ah, c'est difficile, en fait. C'est compliqué. C'est là que c'est intéressant, justement. C'est-à-dire que la mémoire collective, on a gardé l'idée d'un scandale qui est tout relatif. Et puis, il faut aussi penser que le scandale fait partie de la chose. Il faut qu'il y ait scandale. Et s'il faut, on le provoque pour qu'il y en ait un. Soupeau, lui, le jeune Soupeau, était dans le trou du souffleur, parce qu'il avait rencontré Apollinaire peu de temps avant. Et lui, il était assez dépité, en fait, par le discours quand même patriotique de la pièce, puisque c'est une pièce sur la repopulation. Faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère. Donc au moment où tout le monde meurt, sur le front, sur les champs de bataille, il s'agit de faire des enfants, et donc il y a une dimension patriotique qui affligeait complètement Soupeau. Voilà. Et puis de l'autre côté, Breton, en effet, était là, avec Vacher. Alors il paraît, on raconte, que Vacher aurait tiré son revolver, et peut-être brandi ce revolver sur la foule.
Ça c'est pas très sûr.
Plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, on s'en fiche, si je puis dire. C'est-à-dire que l'important, c'est ce que cette légende a d'opératoire, ce qu'elle est devenue. Et d'une certaine manière, en brandissant ce pistolet, il assassinait déjà le poète. Le poète assassiné, c'est le titre d'un recueil d'Apollinaire paru en 1916. Et puis, du coup, il annonce déjà ce qu'il annoncera une fois que Apollinaire est mort. C'est-à-dire, enfin, voilà, il marque une époque. Quelle belle chose nous allons pouvoir faire maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ambigu, Les Mamelles de Tirésias, parce que c'est à la fois loufoque, plein d'inventions, de dérisions, etc. C'est pas toujours compris, c'est pas toujours compris des bonnes personnes, et surtout, il n'y a pas que ça. Et les jeunes gens qui sont là, pour prolonger un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qui sont encore très très jeunes, qui sont en quête d'intercesseurs, ne savent plus très bien, finalement, ce qu'ils doivent croire, et ils sont un peu déçus aussi par l'attitude patriotique d'Apollinaire. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, donc, oui, leurs sentiments sont très ambivalents, en fait.
Justement, à propos de ce que disait Olivier Wagner hein, tout à l'heure, alors ils sont très jeunes, ça va donc très vite, et par la jeunesse et par l'époque aussi, hein, qui accélère, qui va vraiment très très vite. À la mort d'Apollinaire, alors tout à l'heure je disais c'était Vaché, je me suis trompée, à la mort d'Apollinaire, Aragon écrit à Breton, « Elle vient à point, il est mort avec la guerre, qu'aurions-nous tiré de lui ?» Rien. Et Vaché, après sa mort, va écrire à Breton « Apollinaire a fait beaucoup pour nous et n'est certes pas mort. Il a d'ailleurs bien fait de s'arrêter à temps. Il marque une époque, les belles choses que nous allons pouvoir faire maintenant. » Donc on voit bien que ça va quand même très très vite, c'est-à-dire que le compte d'Apollinaire est réglé assez rapidement. Qu'est-ce qu'ils vont lui reprocher ? Vous disiez qu'ils étaient un peu déçus par Apollinaire. Est-ce que tout se joue dans l'expérience de la guerre ?
Oui, en grande partie. Alors, vous voyez, ce que disent Vaché et Aragon, Breton n'est pas encore tout à fait prêt à le partager, en fait. On n'a pas ça pour Breton, à ce moment-là. C'est beaucoup plus ambigu de son point de vue. On n'a pas de déclaration tonitruante. Lui, il n'est pas encore prêt à lâcher prise. En fait, je crois qu'il se passe une question générationnelle aussi. Il y a à la fois l'expérience de la guerre, puisque eux refusent justement cette catastrophe et les raisons et les valeurs qui y mènent et qui la font conduire. Breton, tout pareil pour le coup, et Apollinaire représente ça aussi, une forme d'acquiescement, d'adhésion à cette cause qu'ils n'estiment pas juste. Il y a aussi une question de génération, il faut bien tuer le père à un moment si on veut avancer. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et Breton, il n'en est pas encore tout à fait là. Il le fera beaucoup plus nettement un peu plus tard, quand il sera peut-être libéré de son deuil aussi. Et puis il y a une question esthétique, c'est-à-dire qu'il sente quand même s'il l'admire beaucoup, même si il y a des poèmes qu'ils sauveront toujours de leur condamnation, comme la nuit d'avril 1915, qui se trouve dans le Calligramme, ils ont bien compris qu'Apollinaire, c'était aussi, comme dira Breton beaucoup plus tard dans un de ses entretiens, hein, c'était le lyrisme en personne. Voilà. Apollinaire, c'est le poète majuscule avec un grand P. Et l'invention des champs magnétiques, c'est bien tout le contraire du poète, du sujet lyrique qui mène son poème à sa façon, en fait. Donc je crois qu'il y a aussi l'idée, il y a aussi le désir, hein, pour utiliser un mot typiquement surréaliste, le désir d'une rupture esthétique et poétique. Et Apollinaire représente ça, en fait.
Alors, au champ magnétique, on n'y est pas encore tout à fait. Dans la promenade à la BNF, au mur de cette première partie en forme de mise en contexte, hein, de sorte de marmite préparatoire, sont accrochés de nombreux numéros de la revue Littérature, hein, créée par Breton, Soupeau et Aragon, paru entre 1919 et 1924, et qui va connaître plusieurs orientations, hein, en tout cas au moins deux. Et puis, juste à côté tous ces numéros de la revue Littérature, une sorte de constellation au mur, une constellation de portraits avec Breton, Soupeau, Aragon, Éluard, et puis leurs références, leurs modèles, les maîtres choisis par donc ces très très jeunes gens. Il y a Rimbaud, Huysmans, Valéry, Baudelaire, Nerval, Jarry bien sûr, Mallarmé et bien d'autres. Qu'est-ce que dessine cette constellation à proprement parler, Olivier Wagner?
Cette constellation, elle dessine une des caractéristiques permanentes des surréalistes qui adorent faire des listes, qui adorent faire des questionnaires et qui ne cesseront de se placer par rapport à leurs prédécesseurs, en sachant que pour eux, ce qui leur importe, c'est de voir dans quelle mesure ces prédécesseurs se sont montrés surréalistes ou pas. Hein. Sachant bien sûr que la notion de surréalisme va constamment évoluer, mais disons qu'ils vont tenter de trouver chez ces grands ancêtres, parfois très oubliés, ce qui était précurseur de ce que eux-mêmes commencent à faire l'expérience à ce moment-là. Par exemple, la découverte de l'Autréamont pendant la guerre. Breton et Aragon ont raconté l'un comme l'autre qu'ils se lisaient les chants de Maldoror alors qu'ils étaient tous les deux internes dans un hôpital psychiatrique et que c'était au milieu des impacts d'obus et des cris des fous. Donc c'est dire l'ambiance dans laquelle ils ont découvert ça. Et disons que c'est ce qui va leur permettre de, sans deviner ce que sera l'esprit futur, de toujours se placer dans un présent très intense, ou parmi des lectures diverses, que ça va du roman gothique anglais jusque aux poésies les plus modernes, ce qui va être pour eux, voilà, ce qui marque la permanence de la découverte du merveilleux que eux-mêmes vont prétendre découvrir en maître.
Alors, on parlait justement de constellations. Alors, c'est vrai que ce motif presque graphique revient à plusieurs reprises. Vous parliez des listes, on peut parler aussi de constellations. Je pense par exemple, alors ça, je crois que ça se trouve en 22 dans la revue Littérature, c'est le naufrage de la Sémillante, qui est une sorte de dessin ou de liste au choix entre le graphisme et la liste de Desnos, au centre une fosse commune avec une foultitude de tombeaux autour, figurés par un nom, y compris Fantomas et Gell. Et je, en fait, par rapport à ce que vous disiez, Olivier Wagner, excusez-moi, il est évident à se promener dans ces premières salles de l'exposition que la mort y est très présente. On est en 17, 18, 19, entre urgence et désespoir. Desnos va prédire la mort de Tsara dans les 5 ans qui viennent un peu plus tard. On ne compte plus les mentions de la mort, le recours au motif du cercueil, du tombeau, les suicides, en premier lieu duquel celui de Vacher. Une des soirées d'Ada, plus tard, annoncera même le suicide de Soupeau ou Breton sur scène. Quel sens prend le suicide pour ces jeunes gens qui veulent refonder la poésie et avec elle refonder la vie, d'une certaine façon?
C'est-à-dire que il y a un côté facétieux dans l'aventure surréaliste. Il y a des pièces qui sont très drôles, mais qui est mêlé à un autre aspect qui est celui du désespoir, c'est certain. Par exemple, dans ses lettres de guerre, Jacques Vacher dira à André Breton « Mais j'objecte à mourir en temps de guerre » avant de se suicider quelques semaines après l'armistice. Donc il y a quelque chose de très très complexe là-dedans, et c'est d'ailleurs le paradoxe dans lequel va se trouver Breton après le suicide de Vacher, c'est-à-dire que cette tentation surréaliste, ce pessimisme généralisé face à une société qui a permis la Première Guerre mondiale, qui l'a même encouragée et qui la célèbre après la victoire. Comment surmonter cette envie de silence, un silence qui peut passer par la mort ou par l'envie d'arrêter d'écrire. Donc ça va être un exorcisme permanent pour ce travail d'équilibrisme, tenter de vivre, tenter de réinventer la vie et résister à ce désespoir des tranchées.
Olivier Wagner, peut-être que vous pourriez vous déplacer un tout petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on a des petits soucis de liaison. C'est peut-être juste une affaire de quelques centimètres. On peut toujours essayer, on ne sait jamais. L'idée de suspendre la littérature, c'est une idée qui les traverse, tous ces jeunes gens de 20 ans.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà l'exemple de Rimbaud, qui part au Harare devenir trafiquant d'armes. Il y avait aussi l'exemple de Paul Valéry, qui n'a rien publié de 1897 à 1917. Donc, ce silence, ce choix d'arrêter d'écrire, ça peut paraître comme finalement vivre la littérature jusqu'à sa dernière limite, c'est-à-dire choisir le silence. Même Paul Éluard choisira au début de l'année 24 de partir pour un tour du monde sans prévenir personne. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose qui est né de la guerre. Ça va se poursuivre très longtemps dans le surréalisme, par exemple avec les suicides de Rigaud ou de Crevel plus tard dans les années 30.
Alors, une large partie de l'exposition, qui est scindée en 4 parties, pas tout à fait chronologique, fait forcément état des épisodes d'Ada, auprès desquels Breton, Soupeau et les autres vont s'engouffrer pour un temps assez court, parce que quand on disait que les choses allaient vite, voilà ce qu'il advient de Dada réécrit par Breton, bien des années plus tard, au micro d'André Parinaud.
Je sais bien qu'à distance, les manifestations Dada sont vues par la jeunesse d'un autre œil. Elle est pour en élaguer tout ce qui a pu en faire assez vite l'inintérêt et l'ennui. Elle ne veut, par définition, en retenir que certains aspects héroïques, expression toute extérieure du désaccord entre les idées dites dada et celles qui pouvaient continuer généralement à avoir cours autour de 1920. Il n'est sans doute pas mauvais, il était peut-être inévitable que ce désaccord prît ainsi une forme spectaculaire. Je me borne à dire que revues et manifestations dada, sous l'inspiration de Zara, piétinaient. Elles piétinaient, je crois, parce qu'elles étaient conçues sur le même patron, un patron découpé pour le public de Zurich et, si j'ose dire, rodé à son contact. Vues de l'intérieur comme de l'extérieur, elles se stéréotypaient, se sclérosaient.
Est-ce un jugement a posteriori que vous portez là ou bien votre impression d'alors ?
Les plus sensibles, peut-être parce qu'un peu médecins, aux symptômes de ce vieillissement prématuré, étaient Aragon et moi. Non que l'activité d'Ada fût par nous récusée dans ses intentions générales, mais c'en était assez, sinon trop, de ces niaiseries soi-disant vertigineuses qui n'avaient même pas pour elles la fraîcheur. Nous étions pour un renouvellement radical des moyens pour la poursuite des mêmes buts, mais par des voies résolument différentes.
Il est donc question de niaiserie vertigineuse dans la bouche de d'André Breton. Et le surréalisme, c'est aussi ça, hein, j'imagine, c'est-à-dire l'écriture d'une histoire à mesure, ou la réécriture d'une histoire à mesure qu'elle se fait. Pourtant, Breton commence par attendre beaucoup de Zara, c'est ce que montre bien l'exposition, hein. Il en attend tout, même il lui dit, il lui écrit que tous ses regards se tournent vers lui. Qu'est-ce qu'il commence par attendre de Zara avant de s'en détourner, Olivier Wagner?
Breton, en fait, a lu avec émerveillement le manifeste Dada 1918 de Tristan Zara. Et pour lui et ses amis du groupe littérature, ça va être ce qui va aller devenir le groupe littérature, ça va faire des scènes une bombe, quelque chose qui leur apporte une perspective totalement nouvelle, qui est celle de la négation absolue, radicale de tout, pas seulement la société, mais ou disons plutôt pas seulement l'art, mais également toute la société, sans prétendre construire quoi que ce soit d'ailleurs après. Et alors que il pouvait auparavant être influencé par des écoles comme le symbolisme, la trajectoire tracée à ce moment-là par Tristan Zara apparaît comme porteuse de tous les renouvellements.
Alors, pas longtemps, hein, comme toujours, et c'est ce que montre bien l'exposition, tout ça va très très vite, hein, se passe en quelques mois, parfois en quelques semaines. Pour ce qui est de Dada, plus d'éthique, moins d'idiotie, hein, c'est ce que vous m'avez dit lors de la visite de l'exposition, Olivier Wagner. C'est ce que réclame Breton, fini de rire, assez rapidement fini de rire.
Oui, c'est-à-dire que pour Breton, l'idée de scandale lui semblait productive à partir du moment où le public n'était pas complice, c'est-à-dire à partir du moment où il ne s'attendait pas à être choqué. C'est ce qui faisait toute la puissance de la première manifestation, le premier vendredi de littérature, où on annonçait une conférence très sérieuse d'André Salmon sur la crise du change, et puis ça se transforme en carnaval complètement provocateur, le public qui hurle, qui se lève en chantant la Marseillaise, enfin, là, l'objectif était atteint. Ensuite, quand on va au spectacle Dada comme on va au cirque, forcément, pour André Breton, ça commence à perdre de son efficacité et de sa pertinence.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, André Breton précise déjà, commence à préciser la place du poète dans la société.
Oui, qui d'ailleurs, Dada ou surréaliste, sera toujours une place du refus. Disons que le scandale surréaliste par rapport au scandale Dada, ça se verra plutôt avec la mise en accusation de Maurice Barrès, le tract « Un cadavre contre Anatole France », ou la violente attaque contre Paul Claudel. C'est-à-dire que même au-delà de Dada, ça ne s'agit pas. Mais disons que pour les surréalistes après Dada, il s'agira de rompre les ponts, de brûler les vaisseaux, mais dans une perspective révolutionnaire. Alors que Dada disait plutôt plus de bourgeois, plus de prolétaires, plus de royalistes, plus de communistes. C'était une négation indifférenciée pour le surréalisme, ça aura quand même un but.
Alors justement, alors je ne sais pas si on peut appeler ça la légende, mais en tout cas, dans le récit bâti par Breton, sont les champs magnétiques qui vont signer véritablement la naissance du surréalisme sans une goutte de dada, j'allais dire. En tout cas, c'est ce qu'il suggère dans ses entretiens, dont le manuscrit est exposé en majesté, il faut le dire, dans la partie consacrée aux rêves et à l'automatisme dans l'exposition. Donc, ces champs magnétiques qui sont écrits entre mai et juin 1919 par Soupeau et Breton, à raison de 8, 9, 10 heures parfois d'écriture par jour, et qui est un manuscrit qui est, en tout cas pour sa publication, dédié à la mémoire de Vacher. En quoi ce texte-là fait-il borne ou balise ou acte de naissance, peut-être Laurence Campa?
Je crois qu'on retrouve quelque chose dont vous parlez, Manu, depuis tout à l'heure. Il y a plusieurs choses, mais une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est la vitesse, justement. C'est la vitesse, c'est pas simplement le temps qu'ils y passent, mais c'est aussi la vitesse d'écriture. Parce que, en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de se libérer de la censure, au sens freudien du terme, c'est-à-dire de pas faire parler leur moi ou leur surmoi, mais laisser leur inconscient et leur pensée fonctionner un petit peu toute seule. Et pour ça, il faut prendre de court le contrôle. Il faut que, justement, non pas perdre le contrôle, mais le prendre de court, aller plus vite. Donc, il faut écrire très très vite. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est très importante, et là, on retrouve la mort d'Apollinaire, c'est que Breton et Soupeau essaient d'écrire sans sujet. Et sans sujet, ça veut dire à la fois sans sujet comme un sujet de rédaction, c'est ce que explique très bien dans le catalogue Jacqueline Chénieux-Jourdan. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas de sujet sur lequel je vais m'exprimer, ce qui était quand même un petit peu aussi une manière de faire héritée de la tradition poétique et du 19e siècle. J'ai un sujet, je le mets en vers ou j'en fais autre chose. Et c'est sans sujet parce que ce n'est pas le sujet qui parle, ce n'est même pas la subjectivité, c'est si possible justement le fonctionnement réel de la pensée, comme dit le Manifeste du Cyrallis, et donc l'inconscient. Et c'est ça qui fait aussi une grosse différence, une grosse rupture. Puis la troisième chose qu'on pourrait dire, parmi beaucoup d'autres, c'est que c'est un livre collectif, mais vraiment collectif. Alors maintenant qu'on a les manuscrits, on sait à peu près qui a fait quoi, mais on sait aussi comment ça a été retravaillé, mais surtout, ce n'est plus un seul auteur qui est en majesté, comme vous disiez tout à l'heure, face à sa page, face à son livre, mais c'est un livre qui a été écrit véritablement à deux, et ça inaugure une pratique collective. Et ça, c'est totalement nouveau. On pourrait faire des collaborations avec des illustrateurs, même avec d'autres écrivains, d'autres poètes, mais chacun avait sa part. Tandis que là, il y a vraiment l'idée de l'activité collective, et ça change tout. Et je crois que, pour simplement rebondir un peu sur ce que vous disiez tout de suite, je crois que Dada leur apporte ça aussi. Non seulement un appel d'air, Olivier Wagner en a très bien parlé, une forme d'énergie, etc., mais aussi l'idée que la poésie, comme ils empruntent ça à Lautréamont, en tordant légèrement, doit être faite par tous et non par un. Et ça change radicalement les choses.
Alors, est-ce que ça change aussi radicalement les choses, Olivier Wagner, que d'avoir le manuscrit en main ou sous les yeux, celui des champs magnétiques?
Disons que ça permet d'attester de l'authenticité du témoignage rétrospectif. Ça, c'est déjà quelque chose, puisque comme le disait tout à l'heure Laurence Campa, que ce soit vrai ou pas, finalement, c'est pas si important. C'est la légende qui compte. Malgré tout, voir le manuscrit, ça permet de voir qu'effectivement, ce sont des textes automatiques, dans le sens où il n'y a aucune rature, que c'est un texte qui jaillit sans ponctuation, sans paragraphe. C'est ensuite retravaillé pour la publication, mais disons qu'on peut témoigner du caractère automatique et donc de l'authenticité du témoignage de Breton et de Soupeau.
Alors, on en écoute un extrait lu par Philippe Soupeau.
Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit, et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues, et nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que les trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Quelquefois, Le vent nous entoure de ses grandes mains
un
froides.
Un extrait de Glace sans teint, que j'imagine Breton aurait lu différemment, je suppose. Au fond, il s'agit davantage d'une expérience que d'une œuvre, Olivier Wagner, que ces champs magnétiques.
Disons que ce sont les deux. Ça a été vécu sur le moment comme une expérience, et ça a ensuite été transformé en œuvre. Le matériau brut en lui-même n'aurait pas eu valeur d'œuvre. C'est par le travail qu'il y a eu après, par Breton en partie, mais grâce au manuscrit, on sait aussi que Soupeau y a participé, de recombinaison des textes entre eux pour faire une œuvre publiée. Donc, disons que je pense aussi que la valeur de l'automatisme leur est apparue au moment où ils la pratiquaient. Ils ne se sont pas dit auparavant qu'ils allaient faire une œuvre en utilisant l'automatisme.
Alors, autour de ce manuscrit, hein, dans cette salle à la BNF, se trouvent d'autres œuvres, d'autres expériences d'automatisme. Justement, je pense aux expériences sous hypnose, au sommeil, je pense au cadavre exquis, l'automatisme appliqué au fond à tous les champs, hein, collage, poésie, dessin, et je pense à Desnos en particulier, que vous considérez, nous avez-vous dit, comme virtuose de l'automatisme, ce qui en soi peut paraître un peu contradictoire dans les termes. Qu'est-ce qui en ferait un virtuose de l'automatisme, Olivier Wagner?
Alors ce jugement, il n'est pas juste le mien. C'est-à-dire que même dans les entretiens avec André Parineau que vous avez diffusé, André Breton témoigne encore du sentiment de stupeur du groupe surréaliste en voyant Desnos plonger dans des états cataleptiques de transe qui lui permettraient de faire œuvre de médium. Ils ont eu l'impression à ce moment-là d'explorer quelque chose de toujours plus extraordinaire, jusqu'au danger d'ailleurs. Mais oui, assurément, Desnos est celui qui a su aller le plus loin dans la perte de soi et la plonger dans une écriture qui dépasse à lui-même.
Alors l'autre manuscrit en majesté est celui de Nadja, de Breton, publié en 28, qui est présenté pour la première fois. Je veux dire que c'est assez émouvant de le voir. On y retrouve notamment cette écriture très particulière de Breton, hein, cette écriture parfaite, incroyablement droite, propre, calligraphiée. Alors c'est assez drôle parce qu'on la voit d'ailleurs à côté de l'écriture d'Aragon, qui est nettement plus furieuse, mais qui en revanche, elle, est sans rature. Un mot peut-être sur cette écriture de Breton. Alors je m'adresse à vous qui travaillez au département des manuscrits, Olivier Wagner. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette écriture-là de Breton?
C'est difficile de faire de la psychologie à partir d'une écriture parce que on a tout de suite peur de rentrer dans des poncifs, mais oui, je pense que ce qui frappe chez Breton, c'est ce côté maîtrisé de l'écriture et qui se retrouve dans sa prose, sans doute. C'est quelque chose qui n'est pas très fougueux, c'est quelque chose qui est plus réfléchi, peut-être. Et avec cette pratique un peu étrange, ça se voit sur le manuscrit de Nadja, mais sur d'autres manuscrits d'André Breton aussi, d'utiliser vraiment toute la surface de la page, sans marge, utiliser uniquement le recto, jamais le verso. Donc c'est, disons que ça montre un espace mental qui est très, très maîtrisé.
Qu'est-ce que ça veut dire que de terminer l'invention du surréalisme par Nadja? Qu'est-ce qui s'achève là, ou peut-être qu'est-ce qui commence là?
Disons que l'expérience de Breton avec Nadja et le récit qu'il en tire, ça nous est apparu comme à la fois l'expérience ultime du surréalisme et en même temps comme ses limites. C'est-à-dire que avec Nadja, ce n'est plus juste un jeu sur les mots, mais ou alors c'est un jeu qui tourne mal peut-être, puisque Nadja va finir enfermé dans un asile psychiatrique et elle n'en sortira jamais. Donc c'est-à-dire de bien montrer que dans ces premières années radieuses du surréalisme, il y a également cette profonde noirceur et que l'automatisme, ça permet de créer des images poétiques très fortes, mais ça peut aller jusqu'à la déréalisation et la perte de soi.
À côté du manuscrit, vous exposez un petit carnet de notes de Breton aussi, qui commence le 15 octobre, hein, c'est-à-dire deux jours après le fameux épisode entre Nadja et Breton, du 4 au 13 octobre. Qu'est-ce que ce... Alors, le manuscrit, bien sûr, mais même ce petit carnet vous a donné comme éclairage, ou comme nouvel éclairage, en tout cas, parce qu'il s'agit de pièces inédites que vous montrez là.
Oui, tout à fait. Ce petit carnet n'est apparu... En fait, que l'année dernière, en 2019, à l'issue de la dispersion d'une collection privée, la BNF a pu en faire l'acquisition. Et ce qui est vraiment très, très étonnant, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents comme ça dans la littérature mondiale, mais ça nous permet de connaître l'heure même à laquelle Breton a commencé à prendre ses notes pour Nadja, c'est-à-dire le 15 octobre 1926 à 11h du matin. Et ce petit carnet permet aussi de comprendre un peu certaines des caractéristiques du récit de Breton, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris des notes au fur et à mesure de cette semaine ou 10 jours passés avec Nadja, mais c'est que le 15 octobre, il s'est senti le besoin impérieux, après sa rupture amoureuse avec Nadja, de rassembler tous ses souvenirs le plus rapidement possible, donc de façon très sténographique, elliptique, pour que finalement ça s'échappe le moins possible. Donc avant même de décider de se mettre à écrire le récit qui portera le nom de Nadja, on sait qu'il a déjà eu cette nécessité vitale de rassembler tout ce qui a pu se passer pendant cette période si étrange de sa vie.
Alors, puisque vous dites rassembler, justement, ce qui est assez beau à voir aussi, c'est dans ce manuscrit, que ce manuscrit va véritablement devenir une sorte de reliquaire, hein, le manuscrit de Breton. Alors, on voit qu'il a aussi gardé tout un tas de dessins. Il y a une carte postale. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps de... Il faut aller voir l'exposition pour se rendre compte de tout ça. Mais ce qui est assez extraordinaire dans cette celle-là, c'est que vous montrez aussi des dessins, beaucoup de dessins de Nadja, une photographie, beaucoup de lettres, dont très peu ont été édités. Je pense notamment à une lettre du 14 mars 1927, hein, 2 semaines avant son internement définitif. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait tant tardé à montrer tout ça? Alors, c'est peut-être pour des raisons purement pratiques, hein, ou de collection privée, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'idée qu'au fond, Nadja devait rester une sorte de personnage ou un bout de la légende surréaliste, hein, et qu'il valait mieux qu'il en soit ainsi plutôt qu'elle prenne corps? Parce que là, on a vraiment le sentiment que Nadja prend corps dans cette dernière salle de l'exposition.
Oui, je dois avouer que c'est une bonne source de fierté, le fait d'avoir... On n'a jamais rassemblé autant de pièces originales autour de ce personnage, et comme vous le disiez, on prend vraiment conscience de sa réalité, dans ce qu'elle peut avoir de plus grisant, de plus poétique, parce que certaines de ses expressions sont vraiment d'une poésie folle, et en même temps, de ce que son existence a pu avoir de tragique, dont, avec ce mot du 14 mars 1927, donc une semaine avant son internement, on est encore plus proche, où on se rend compte effectivement qu'elle perd contact avec la réalité. Donc, ça n'est pas non plus pour faire une exposition sur Nadja, puisque c'est une personne qui a vraiment existé, qui a vécu, qui a terminé sa vie dans la tragédie, et qui par ailleurs a une famille qui existe encore. Mais disons que ce rapport avec le récit de Breton, cette mise en écho, les créations de Nadja avec le texte de Breton, ça permet de se rendre compte de l'extraordinaire authenticité du récit et de ce qu'il peut y avoir à la fois de tragique et d'orgueilleux, dans le sens glorieux de Nadja en tant que personne créatrice.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Et toujours avec Laurence Campa, Olivier Wagner et David B., que je pense nous avons retrouvé, du manuscrit de Nadja à sa représentation d'André Breton à Nick Carter, et inversement.
Calling Nick Carter. Another case for Nick Carter, Master Detective. Yes, it's another case for that most famous of all manhunters, the detective whose ability at solving crime is unequaled in the history of detective fiction. Nick Carter, Master Detective. Tonight's curious adventure is...
The Echo of Death, or Nick Carter and the Phantom Clue.
No, no, please, don't kill me, don't kill me.
Hold him still. They're just like that. This has got to look right.
No, I'll do anything you say. I'll forget everything I know. Only don't...
Ça, c'est fait. L'écho de la mort, qui est le 13e épisode de Nick Carter, Master Détective, enregistré en feuilleton pour la radio américaine. Nick Carter, qui est ce personnage de roman feuilleton créé à la fin du 19e siècle et qui donnera lieu à toutes sortes de nouvelles, d'histoires, de publications en kiosque, mais aussi à l'écran, notamment une série de films muets en France au début des années 10. Qui seront évidemment vus avec enthousiasme par Desnos, par Breton, par Soupeau et sans doute par bien d'autres. C'est à ce détective-là qu'il revient d'enquêter sur peut-être l'âme du surréalisme ou quelque chose comme ça, à la demande de Breton dans l'album que vous signez, David B, aux éditions Delcourt Soleil, qui avait donné lieu il y a peu à une exposition à la galerie Anne Barrault à Paris. Alors avant de revenir à Breton, qu'est-ce qu'un tel personnage, et je parle bien de Nick Carter, représente pour vous, représente pour un auteur de bande dessinée, pour un graphiste, pour un artiste? Est-ce qu'il faisait partie de vos références ou c'est Breton qui vous y amène?
C'est Breton qui m'y a amené en fait. Nick Carter, d'une certaine façon, pour moi, il représente plus le monde du feuilleton. J'ai jamais lu beaucoup Nick Carter. J'ai vu beaucoup les films, mais ça représente plus le monde du feuilleton et toute la poésie justement qui peut s'y rattacher, notamment dans les couvertures des fascicules dans lesquelles les aventures de Nick Carter et d'autres héros de feuilleton comme Fantomas, comme Harry Dixon pouvaient être publiées entre les années 1900 et 1930. Et c'était des couvertures qui étaient toujours des couvertures dessinées justement et qui avaient une charge fantastique, une charge d'imaginaire absolument extraordinaire et qui m'ont toujours frappé quand je les ai découvertes enfant et adolescent. Et c'est quelque chose qui m'est resté. C'est pour ça que dans ce livre j'ai voulu associer Breton avec le monde du feuilleton qui faisait partie des références surréalistes.
Qui était du plus grand intérêt pour eux. Qu'est-ce qui ferait d'ailleurs de la lecture de ces romans populaires d'imagination, ou romans de détective, d'aventure, voire les films aussi d'ailleurs, une activité poétique du plus haut intérêt, comme l'écrit d'ailleurs déjà Apollinaire en 1900, Laurence Campin?
Alors, je crois que ce qu'ils apprécient énormément, c'est cette imagination débridée qui se fiche complètement des codes, de la vraisemblance. Ils ont appris là, dans Fantomas, comme dans Nick Carter, comme dans Buffalo Bill, enfin dans tous ces romans feuilletons, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait, tout simplement, une sorte de liberté absolue qu'ils ont trouvé chez Sade dans un genre complètement différent. Imagination et liberté. Et puis surtout, dans le catalogue, on voit un portrait, enfin pas un portrait mais une peinture, pardon, Gustave Moreau, on voit la tête d'Orphée. On parlait tout à l'heure de la mort d'Apollinaire, du dernier poète majuscule. Je crois qu'en fait, et Apollinaire avait déjà montré la voie, ce qu'ils adorent dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchie. On peut faire de la poésie avec ce qu'on veut, en fait. On n'a plus le grand poète, le grand écrivain, le grand peintre, etc. On peut aller puiser absolument partout. Et ça, c'est subversif, et ça, c'est tout à fait nouveau.
Alors le Gustave Moreau auquel vous faites allusion termine précisément l'exposition à la BNF. Votre enquête à vous, David B, fait se rencontrer donc Nick Carter et Breton. Nick Carter qui est présenté comme un ami des poètes surréalistes, ce qui après tout est tout à fait vrai. En résulte donc 50 planches en noir et blanc, comme 50 chapitres ou épisodes, images plus texte. Qu'est-ce qui se joue entre les deux? Est-ce que c'est quelque chose comme l'image et la voix off qui reprendrait la forme du film de détective, hein.
Oui, il y a de ça. Il y a aussi les illustrations qu'il y avait dans les livres de cette époque. Vous savez, où on mettait une petite phrase en dessous pour situer l'endroit où se trouvait l'illustration dans le texte. Enfin, faire une référence au texte à l'intérieur de l'illustration. Il y a quelque chose comme ça. Et puis en même temps, chacun des dessins correspond à un épisode de la vie de Breton à partir de 1931, puisque l'enquête commence en 1931. Je passe pas tout le surréalisme en revue.
Non, vous prenez le relais de la BNF, en fait.
Oui, c'est un peu ça, oui, c'était prévu comme ça. non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est un moment de crise pour André Breton, justement. Il est plus, comme je le dis au début du livre, il a plus d'amis, il a un peu viré tout le monde du groupe surréaliste. Il s'est fait virer du Parti communiste. Il a pas de... C'est un moment où il a pas d'amour dans sa vie. Et... il ne sait plus très bien où il en est, donc il se tourne vers Nick Carter pour retrouver le sens de sa vie et le sens du surréalisme.
À propos de
d'une certaine façon, pardon.
Non, je vous en prie.
Oui, d'une certaine façon, je raconte un peu tous les épisodes importants de sa vie jusqu'à sa mort à partir de là.
Alors très vite, par ailleurs, hein, donc je parlais d'une enquête. Alors au début, hein, vous écrivez, en tout cas, je crois que c'est dans la planche numéro 2, hein, vous dites, c'est Nick Carter qui parle, qui dit « La plus étrange affaire de ma carrière a été celle pour laquelle André Breton m'a engagé en 1931. C'était pour lui une mauvaise période, il avait des problèmes d'argent, sa compagne l'avait quitté, etc. etc. » C'est tout ce que vous venez de nous dire. Et très vite, l'enquête va vriller, c'est-à-dire que Breton va même finir par arrêter la mission de Carter et même exclure Carter du groupe surréaliste alors qu'il ignorait même qu'il en fit partie. Carter ne cherche plus, mais sur les conseils de Breton, il va continuer l'enquête pour, comme lui dit Breton, pour accumuler du merveilleux. Au fond, on a presque le sentiment que Nick Carter, c'est un peu vous.
Oui, là, d'une certaine façon, oui, c'est un peu mon regard sur André Breton. Effectivement, tout le long du livre, la voix off, c'est celle de Nick Carter. C'est lui qui raconte l'enquête. Et c'est un peu ma façon de voir la vie d'André Breton d'un point de vue feuilletonesque et du point de vue, effectivement, de cette quête du mystère. Moi, je sais que j'ai découvert le surréalisme quand j'étais adolescent ou préadolescent. C'était il y a un peu longtemps. Je crois qu'il y a eu une rétrospective surréaliste au Grand ou au Petit Palais. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert. Il y avait tout un tas de choses que je connaissais absolument pas. Et ça a été un grand choc pour moi, justement. Et un grand choc mystérieux. Toute cette accumulation de mystères. Et c'est un peu ça que j'ai voulu retranscrire dans ce livre, effectivement.
Qui est aussi, au fond, presque une forme de reconnaissance de dette.
Oui, tout à fait. Et puis, de reconnaissance de dette à une exposition, justement, parce que c'est une exposition qui me fait découvrir tout ça. Puis après, je me suis plongé. Et on avait un professeur de français qui nous a fait étudier Nadja en cours. Et d'habitude, les livres qu'on nous faisait étudier, ça me barbait. Et là, j'ai trouvé ce livre-là extraordinaire. Et c'est un livre que je relis régulièrement. J'y trouve toujours des choses. J'y trouve toujours, justement, du mystère à approfondir.
Alors, au fil des planches en noir et blanc, Nick Carter va croiser, interroger les amis partis, les amis exclus. Hein, il y a Desnos endormi, Nadja enfermé, Aragon, Crevel suicidé, Bataille, Magritte à Bruxelles, Frida Kahlo, Tanguy, et puis Gala et Dali. Gala dont le sexe est drogué, hein, dans l'une des planches. Dali qui pourrait bien être le voleur du surréalisme, en tout cas celui du répertoire de Tanguy. Dali qui pactise avec l'infâme docteur Quartz, hein, qui est l'ennemi de Nick Carter. Pour vous, Dali, ce serait, pour faire vite, hein, le méchant de l'histoire surréaliste ?
C'est un peu un des méchants. J'ai jamais été très fan de Dali, même de sa peinture, et ça dès le début, en fait. Je crois que... justement, les adolescents aiment beaucoup la peinture de Dali. Moi, ça me parlait pas trop, beaucoup moins que d'autres, que Ernst ou que Tanguy, justement, qu'il a objectivement copié, mais il a jamais parlé de Tanguy. Dali, c'est marrant. Il a toujours caché l'influence que les tableaux de Tanguy avaient pu avoir sur l'origine de sa peinture. Et oui, donc comme il faut des méchants dans les romans feuilletons, j'ai pris à la fois un méchant du monde de Nick Carter, qui est le docteur Quartz, et puis Dali, un peu comme le méchant de Séraphis au sein du groupe surréaliste.
Laurence Campa, Olivier Wagner, ça vous semble être un mauvais rôle convaincant que celui de Dali? Olivier Wagner, je crois que vous avez lu l'album. Je vous entends plus. Ah, j'ai perdu Olivier Wagner. Laurence Campa, vous êtes là?
Là, je n'ai malheureusement pas encore lu l'album. J'ai juste sur mon écran quelques images. Je me risquerai pas à statuer sur
Dali.
sur le rôle de Dali, mais je suis entièrement d'accord avec David B. Je préfère largement Tanguy à Dali pour des raisons totalement personnelles. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est pas que ça soit vrai ou pas, une fois de plus, c'est ce qu'on en fait. Et je crois que le surréalisme et Breton en particulier, dont on a dit beaucoup de mal pour des raisons justes ou injustes, nous aujourd'hui nous dit surtout une chose, mais faites-le, allez aussi loin que vous pouvez, prenez des risques. C'est la leçon de Nadja. La fin de Nadja, c'est qui vit. Qui vit, ça veut dire à la fois qui est là, mais qui est vraiment vivant et qui fait les choses avec vie. Donc si David B a envie d'en faire de Dali un méchant pour l'histoire qui le préoccupe, moi ça ne me gêne pas du tout personnellement.
Alors c'est vrai David B, que l'album aussi un peu entre les deux. Quant à Breton à proprement parler, alors certes il est en très mauvaise posture en 31 quand démarre l'enquête, mais Breton c'est à la fois celui qui pousse à forcer les portes du merveilleux, mais c'est aussi celui qui abandonne Nadja. Vous y revenez à plusieurs reprises sur cette indifférence ou sur cet abandon.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Enfin, j'ai lu pas mal de livres autour de ça, de Nadja et du personnage réel, donc de Nadja, au-delà du livre de Breton. Et son sort, ça m'a fait de la peine, évidemment. Et il peut pas en être autrement, je pense. Donc j'avais envie de l'introduire dans cette histoire et qu'on la retrouve justement, qu'on parle aussi de ce qui lui était arrivé après, que ça reste pas seulement le livre de Breton, même si ce livre est extraordinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais que de parler aussi de la vraie personne. Et ça, c'est une façon de... Bon, les personnages ont plusieurs niveaux, je pense, à l'intérieur de mon livre. C'est-à-dire, il y a les personnages de feuilleton, justement, les personnages de imaginaires. Et puis, il y a ce qu'ils sont aussi dans la réalité. Il y a Breton qui exclut les gens, il y a des choses comme ça, quoi, des aspects de sa personnalité, qui va abandonner Nadja, des aspects qui sont pas forcément très valorisants pour lui. Et puis à côté de ça, bon, ce qui pouvait être, c'est-à-dire quelqu'un qui va voir Trotsky au Mexique, qui voyage, qui rencontre des tas de gens, qui est le fondateur de quelque chose et l'animateur, un peu le pivot d'un mouvement extraordinaire.
Alors il y a effectivement dans chaque planche, il y a les personnages réels, les personnages qu'amène Nick Carter. Alors on retrouve aussi, au fond, il y a tout un tas de motifs dans votre univers à vous, David B., qui vraiment convergent avec celui des surréalistes. Alors je pense évidemment à l'importance du rêve, à l'importance de la nuit aussi. Et puis donc ce sont ces planches qui finalement fonctionnent un peu comme une sorte de poème à chaque fois, chacune de ces planches. Et qui mêle les personnages, des signes, des symboles, des créatures, tout un tas d'objets étranges parfois, d'objets réels. Rien d'automatique, j'imagine, dans ces planches-là. Par quelles étapes est-ce qu'elles passent,
J'ai commencé... il y avait quelque chose d'un peu automatique, si, c'est-à-dire de trouver... j'ai repris un peu cette phrase surréaliste, beau comme la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et un parapluie. C'était un peu la rencontre entre
un épisode de la vie de Breton, comment en faire une interprétation fantastique, une interprétation feuilletonesque. Et puis les titres de chacun des dessins sont des images empruntées tirées de vers d'André Breton, justement. C'était de conjuguer ces choses-là. C'était fait à partir de ces trois éléments-là. C'est un peu la rencontre de ça, en fait, d'où sont nés les dessins. Et en général, c'est les dessins qui sont venus en premier. J'ai fait des croquis, et puis après, je mettais les titres dessus et je mettais le texte en dessous. Voilà. Mais j'avais envie de dessiner ça. Je me disais, tiens, puis ça peut correspondre à tel épisode. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné, en fait. C'est d'abord quelque chose de visuel, avant d'être écrit, disons.
Alors, si c'est quelque chose de visuel, le noir et blanc allait de soi, David B.
Oui, de toute façon, j'avais envie de le faire en noir et blanc. Et voilà, j'aime beaucoup le dessin en noir et blanc. J'aime bien travailler en couleur aussi des fois, mais j'ai commencé ma carrière un peu comme à l'association en travaillant en noir et blanc. Et c'est vrai que je reviens continuellement à cette manière de dessiner. Je trouvais que ça correspond bien au côté feuilleton, justement, au côté un peu passé, un peu ancien, un peu rétro, tout ça.
Alors, sans vouloir être trop solennel ou majuscule, l'enquête s'achève, enfin rien n'est moins sûr hein, quant à son achèvement, mais en tout cas à la mort de Breton, le 28 septembre 1966, se termine d'ailleurs sur une note plutôt optimiste et inquiétante et merveilleuse. J'imagine que c'est tout ça, la leçon de Breton pour vous ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça se termine sur une couverture d'un fascicule de Nick Carter qui annonce le retour d'André Breton. Parce que le feuilleton, par principe, c'est quelque chose, sont des aventures qui se terminent jamais. Donc voilà. Donc André Breton, il va revenir, forcément. Il est pas mort.
Si.
Et voilà, les aventures du surréalisme et d'André Breton vont continuer, oui.
Qu'est-ce que s'il revenait justement, qu'est-ce que vous auriez à lui demander ?
Ah là là, oh, des tas de choses. Je sais pas s'il a trouvé l'or du temps, c'est peut-être une question banale, mais je pense qu'il l'a trouvé. Je pense qu'il l'a trouvé par moment, puis qu'il l'a perdu, puis qu'il l'a retrouvé, qu'il l'a reperdu, qu'il l'a laissé de côté à certains moments, qu'il l'a repris. Mais voilà ce que je lui demanderais.
Laurence Campa, vous auriez quelque chose à lui dire ?
Moi, je pense que je serais tellement impressionnée que je n'oserais rien dire, mais non, ce qui vraiment peut-être, je défendrais toujours Breton. Je sais qu'il a été beaucoup attaqué, il l'est encore, pour, comme je disais, pour des tas de raisons, juste ou injuste, mais je crois qu'un poète qui nous dit tout paradis n'est pas perdu, ne peut pas être avec négligence, tout simplement. Et je trouve qu'aujourd'hui, je me répète un peu cette phrase, enfin, je me la répète depuis longtemps, mais je me la répète particulièrement en 2020, ce n'est pas une sorte de mantra. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même comme une leçon de vie dans cette expérience de la poésie et de la vie.
Alors, puisqu'on parlait de Breton et de Nick Carter, je signale que demain à 22h sur France Culture, il sera largement question de polar et de surréalisme à la table de François Angelier. Dans Mauvais Genre. David B., Laurence Campa, Olivier Wagner, merci. À tous les trois, la compagnie des poètes, c'est fini pour aujourd'hui. À la préparation, Thierry Beauchamp. À la technique, Baptiste Lénard. À la réalisation, François Connac. Vous pouvez réécouter et partager cette émission sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Même heure, même endroit, avec moins de soucis techniques, j'espère. Bon après-midi à toutes et à tous.